Ah, la main verte du week-end, vous la connaissez, c'est celle d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Jardinier de Versailles. À propos d'une fleur ce matin, l'une des fleurs les plus faciles à identifier est sans doute l'azurite.
Oui, c'est une plante que tout le monde connaît, mais peu connaissent le nom, d'où la chronique de ce matin. Or, c'est une plante incroyable, capable de survivre dans le sable, sans une goutte d'eau pendant des semaines. Cette fleur, elle est connue de tous, car elle ressemble au chardon, d'où son appellation de chardon bleu. Elle vit principalement près du littoral atlantique ou méditerranéen, et ceux qui ont posé le pied dessus savent pourquoi elle est aussi appelée oursin bleu. Alors pour faire simple, ces feuilles rappellent celles du chardon ou de l'artichaut, mais elles sont épineuses et elles le sont vraiment. La fleur est une très jolie sphère bleu azur, d'où son nom d'azurite.
Et malheureusement, cette plante a tendance à disparaître de nos paysages.
Alors elle est en effet victime du piétinement et des cueillettes abusives, et même si l'on en voit encore souvent, elle n'est pas encore disparue, rassurez-vous. Il faut toutefois être vigilant et tout faire pour la préserver. Il est aussi bon de savoir que l'azurite est un végétal qui a toute sa place dans le jardin, ça on le sait moins, qui tolère l'ombre légère et qui se plaît dans tous les sols à condition, bien sûr, qu'il soit léger et surtout, bien drainé.
Et l'azurite supporte plutôt bien les conditions les plus extrêmes.
Ouais, elle est capable de vivre sous un soleil de plomb et pendant des semaines, et puis en absence de pluie totale, elle vit là où très peu de végétaux peuvent s'épanouir, d'où la nécessité de la protéger, car voyez-vous, elle est source de nectar pour beaucoup d'insectes et évite l'érosion des dunes de par ses feuilles et ses racines.
Allez, une petite citation pour terminer.
Ah, une citation merveilleuse qui est signée de Jules Renard. Papillon, ce billet d'où plier cherche une adresse de fleurs.
C'est beau comme une petite annonce.
Et à propos de renard, il paraît qu'il y en a un qui s'est attaché à vous au point de venir tous les soirs sous vos fenêtres.
Eh bien, c'est exact. J'ai la chance tous les soirs d'avoir sous mes fenêtres un renard, ou plutôt, je pense, une renarde. Je me demande si la dame n'attendrait pas des petits. Tous les soirs, elle vient, j'ouvre délicatement la fenêtre, je lui jette à manger. Il paraît que ça se fait pas. Eh bien, moi, je le fais. Elle me regarde, elle prend ce que je lui ai mis et elle part après discrètement dans un bosquet. Avoir cet animal sauvage tous les soirs à me regarder, je vous assure que c'est un bonheur exceptionnel.
Et qu'est-ce que vous lui donnez à manger, d'ailleurs?
Oh, je lui donne des croûtes de fromage, un petit reste de viande, ou ce genre de choses. Non, mais c'est vrai que quand on voit la beauté de ce regard, l'intelligence de cet animal, et puis c'est ce symbole de la vie sauvage, je suis très très heureux.
Bon, bah maintenant on veut des photos sur le site de France Inter, à la page du week-end, photo des renards.
Eh bien, je vais même faire mieux, une vidéo, car je l'ai fait, je le filme, et c'est assez étonnant. Et je vous promets que s'il y a des bébés, eh bien nous les baptiserons du nom, si ce sont des petites femelles, de Patricia et un garçon.
Pourquoi pas, les renards du jardin de Versailles. Alain Baraton, vos conseils à présent aux auditeurs de France Inter et auditrices. Hébert trouve des fleurs d'abricotier à terre, entièrement formées, comme sectionnées sous le réceptacle. Alors, quelles en seraient les causes possibles, demande Hébert.
Oh, la réponse va être rapide. Elle est bien connue, malheureusement, des producteurs de fruits. C'est le gel. Le gel qui est la cause de cette, j'allais dire, rupture florale. Le végétal, eh bien, sait qu'il ne pourra pas mener à maturation, à fructification les fleurs. Il ne perd pas son temps. Il se sépare de la floraison. Elle tombe. C'est l'une des conséquences du gel. Voilà donc la raison qui fait que le sol est jonché de fleurs. C'est peut-être beau, mais c'est bien triste.
Jean-Marie découvre que chaque année, il doit couper les branches et les petites ramures desséchées de son arbre Sophora pleureur. Cet arbre a une quinzaine d'années, précise-t-il. Est-ce normal ou est-ce qu'il manque de nourriture?
C'est très beau le Sophora pleureur. On dirait presque une perruque en quelque sorte. C'est très élégant, les feuilles sont ovales. C'est un végétal très joli. Que j'apprécie particulièrement, mais qui a un petit inconvénient, voyez-vous, il fait beaucoup, beaucoup de bois mort. Et il faut de temps en temps eh bien le nettoyer, j'allais même dire le peigner. Donc c'est normal, il n'y a rien à faire pour éviter le bois mort, on le coupe tous les ans, c'est facile à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça occupe, j'allais dire, le jardinier.
Véronique, un prunus à feuilles rouges qu'elle n'a pas réussi à identifier véritablement. Il ne fait pas de fruits, il fleurit rose en mars, il est en fin de vie visiblement. Il fabrique des rejets à feuilles vertes sous le point de greffe et je le laisse faire. Peut-il devenir cerisier sauvage et me faire des fruits, demande Véronique.
Alors des fruits, oui, cerisier sauvage, non. Il ne s'agira certainement pas d'un merisier. En fait, les prunus pissardis, c'est le nom de ces, j'allais dire, cerisiers décoratifs à fort. C'était très à la mode à une époque, on en voit moins, mais des feuilles un peu rougeâtres, très cuivres, assez jolies, un feuillage sombre, qui produisent des fruits qui sont pas exceptionnels, qui sont comestibles, mais qui ne sont pas exceptionnels, eh bien, sont effectivement greffés sur des pruniers mirobolants, qui eux aussi produisent des fruits. On va dire comestible, mais il n'y a pas de quoi en faire, très honnêtement, un festin. Donc il n'y aura pas de merise, mais il y aura des petites prunes de peu d'intérêt.
Il y a un post-scriptum au message de Véronique. Alain Baraton, est-ce que vous avez pensé à apporter des fleurs à Madame Patricia Martin?
Eh bien écoutez, sachez que je le fais assez régulièrement.
Ah, oui,
assez
oui,
régulièrement. Alors, je préfère les fleurs fraîches, bien entendu.
Ouais, c'est pour ça qu'il n'y en a pas ce matin.
Ce matin, j'ai emmené une gerbe, non pas un bouquet,
une gerbe
de tulipes.
Mais où est-elle?
Non, mais j'ai intérêt, par contre, la semaine prochaine, pour oublier le muguet, on m'a déjà prévenu.
Là aussi, on fera des photos pour vérifier et on mettra ça sur le site. Françoise, depuis l'année dernière, ces fuchsias ont des maladies. Elle précise que vous pouvez le voir, ces maladies, vous pouvez les voir sur la photo ci-jointe. Oui. Je ne sais pas si vous les avez regardées, ces photos, mais elle vous demande quel peut être le problème avec les fuchsias.
Alors les photos, effectivement, représentent un fuchsia, des feuilles qui sont boursouflées, qui sont rougies et qui donnent absolument toutes les caractéristiques, eh bien, cette fameuse gale du fuchsia. C'est une maladie qui est véhiculée par un acarien. L'acarien, c'est une petite araignée qui arrive, qui se nourrit de la sève de la plante et qui contamine celle-ci. Et la plante devient malade. Mais les conséquences sont dramatiques, si dramatiques d'ailleurs, que des arrêtés ministériels obligent la destruction des fuchsias. Donc, pour répondre,
destruction des fuchsias, bien sûr,
pour éviter la contamination. Ah ouais. C'est l'avantage qu'entre les virus, entre les hommes et les plantes, c'est que les plantes, on peut s'en séparer, j'allais dire sans trop de considération.
Ouais.
Oui, fort heureusement. Mais ça permet d'éviter que l'ensemble de la production des fuchsias, par exemple, soit altéré. Mais les fuchsias sont connus pour cette maladie. Alors, de temps en temps, ne perdons pas de temps à traiter, éliminons la plante. C'est triste, j'en conviens. Surtout que quantité de plantes sont des souvenirs d'une grand-mère que, par exemple, qui l'entretenait avec soin. Mais que voulez-vous? Ainsi va la vie. Alors, on résume. Quand vous avez un fuchsia avec des feuilles qui commencent à se décolorer, à se boursoufler, à devenir rougeâtre, à vraiment prendre des figures un petit peu de comme si elles dégénéraient complètement, il n'y a pas de doute possible. L'Aculops fuchsiae, c'est le véritable nom de cette gale. Il faut détruire la plante.
On détruit la plante. Marie-Lise a un céanote planté depuis 8 ans. Il était magnifique, dit-elle. Il a plein de branches rousses. Très peu de vert cette année. Pouvez-vous me dire pourquoi?
Alors, je dis souvent que la taille n'est pas une obligation, mais parfois...
Elle précise effectivement qu'il n'a jamais été taillé et qu'il fait aujourd'hui plus de 2,50 m.
Voilà où je voulais en venir.
C'est à note.
Tailler une plante n'est pas toujours indispensable. Mais prenons votre exemple, Eric, si vous le permettez. Vous avez des cheveux. Heureusement que de temps en temps, vous allez chez le coiffeur. Parce que vous auriez les cheveux aujourd'hui...
Pas
qui
souvent,
vous... Oui, c'est vrai. Au moins de ce côté, on sait que vous ne dépensez pas votre argent chez cette corporation. Mais admettons que vous laissiez vos cheveux pousser, parce que c'est quand même une coupe de cheveux.
Ne vous donnez
pas des idées. Des couettes ou une queue de cheval.
Voilà. Et bon, au bout d'un moment, il faut remettre un petit peu d'ordre. Eh bien, le céanote, c'est la même chose. Si tous les ans, après la floraison, en automne, on taillait l'extrémité des tiges, ça permettrait d'éviter que cette plante ne grandisse trop. Elle se ramifierait, resterait davantage compacte et serait beaucoup plus belle. Les arbustes sont des végétaux qui ont été fabriqués par les hommes ou améliorés par les hommes pour fleurir au mieux. Et le céanote, c'est l'exemple typique d'une plante qu'il faut maintenir. Alors, on laisse grimper peut-être, et puis après, la plante, elle fait 2,50 m, le cœur se vide, les fleurs deviennent rares, les feuilles ne sont plus terribles. Donc, il faut tailler le céanote, il est encore temps de le faire. Alors, pas de manière trop importante, allons-y doucement, mais quantité de végétaux, d'arbustes doivent se tailler, et ils se taillent toujours après la floraison.
Merci Alain Baraton. Un dernier conseil pour ce week-end.
Ah, écoutez, très belle idée qu'a eu Delachaux et Nestlé. C'est Pascal Antigny qui publie le guide des tomates. Alors c'est merveilleux. On ne parle que des tomates, elles sont jaunes, elles sont vertes, elles sont noires.
Il y a des variétés extraordinaires.
Il y a toutes les variétés. 250 variétés sont précisées, sont photographiées, sont indiquées. On apprend tout sur les tomates. Très bel ouvrage. Vous savez, ce sont les petits guides de Delachaux qui sont fort bien faits. Donc, guide de Delachaux et Niestlé, l'éditeur Nature, guide des tomates de Pascal
et
Antigny.
Et on mange des tomates à la saison des tomates.
On est d'accord, mais ça arrive
pas
bientôt.
Mais pas encore.
Mais c'est bon les tomates. Hein.
Qu'est-ce que c'est?
Merci Alain Baraton. Et à demain,
Jean-Guy
de Versailles. À demain, à la même heure.